Bonjour auditrices et auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'émission Poète vos papiers sur Radio Saint-Féréol. Si vous êtes déjà ouvert à la poésie, bienvenue, et encore plus si vous êtes à l'écoute pour la première fois. Dans cette émission, nous partirons à la découverte d'Eri De Luca, écrivain italien connu, mais qui n'est pas qu'écrivain, loin de là. Dans la seconde partie, vous entendrez un choix d'extraits divers sur le thème du chat, thème plus léger que celui du mois dernier.
De Luca, né Enrico De Luca, le 20 mai 1950 à Naples, est un écrivain, journaliste engagé, poète et traducteur italien contemporain. Il a obtenu de nombreux prix. Engagé, c'est peu dire, et il a été à bonne école avec son père, résistant durant la dernière guerre. Eri De Luca, étudiant puis ouvrier par choix, a été actif dès sa jeunesse dans nombre de mouvements et d'événements révolutionnaires dans son pays. Il a dû fuir l'Italie pour échapper à la répression et est venu travailler en France où il vécut quelque temps avant de regagner l'Italie. L'engagement a continué d'accompagner l'écriture. Il était parti pour une mission humanitaire en Tanzanie, mais a dû rentrer à cause de la malaria. Mais quelques années plus tard, on le retrouve chauffeur de camion pour une ONG durant la guerre des Balkans. Récemment, il fut poursuivi par la justice italienne pour avoir pris position forte contre le tunnel Turin-Lyon. Eri De Luca découvrit un jour la Bible et se passionna pour les Écritures. Il se dit non-croyant, mais ne se définit pas comme athée pour autant. L'athée, dit-il, se prive de Dieu, de l'énorme possibilité de l'admettre, non pas tant pour soi que pour les autres. Il s'exclut de l'expérience de vie de bien des hommes. Bouleversé par le génocide des Juifs, il apprend le yiddish pour que cette langue dans laquelle il parle, écrit et chante ne disparaisse pas. Autre passion marquante dans sa vie, l'alpinisme, qui pour lui a été plus qu'un sport, une aventure amoureuse avec la montagne, pour laquelle il a un immense respect. Il a notamment parcouru au Népal les massifs de l'Annapurna et du Dholagiri avant qu'un infarctus ne lui interdise les courses. Il écrit « En grimpant, j'entre dans un lieu vide ou très peu fréquenté. Là-haut, je me trouve en situation d'hôte, mais pas d'invité. Et j'appartiens un peu moins à ce temps qui a la présomption d'être résident sur Terre, d'être le patron de la Terre, de l'air et de l'eau. Je ne veux pas laisser de traces, seulement celles de mes pas, mais en montagne, la neige a tôt frais de les recouvrir. » Ces romans ont tous un fondement autobiographique. Mes romans se ressemblent parce que le personnage principal en est la ville de Naples. Tous les autres protagonistes sont des fourmis installées sur les pentes du volcan. L'italien est pour lui une seconde langue et il a toujours parlé le napolitain avec sa mère, tandis que son père tenait à ce que sa sœur et lui parlent un italien parfait. De Luca revendique ce double héritage. Son premier livre de poèmes a été publié en 2002. Il mêle tout ce qui fait sa vie, la lutte, la montagne, la guerre, la Bible, l'écriture. Je vous en livre quelques-uns dans le joyeux désordre de son livre. Voici sa biographie à lui. Le nom que je porte, comme le sac à dos d'un contrebandier, est celui d'un oncle, lui, Harry, et moi, Eri. L'été 66, je voulais devenir le bois de hêtre de la chaise longue où la fille allongeait son corps étincelant de gouttes. J'ai été le deux de pique et le rien de carreau, ouvrier salarié et gratuit aussi. J'ai été un boule de lard de malaria, 10 kilos déposés à égoutter sur un lit de camp, une odeur de caoutchouc sur les aisselles, 7 degrés au-delà de l'équateur et 41 dans le corps. Là, je dénonçais un serpent vert sous une pierre, on l'a tué. Je n'ai pas eu d'enfant. Par politesse, une femme m'a dit « Quel beau sang sort de toi !» Il était rouge, irascible, avec des bulles, enivré d'oxygène. J'aime le la mineur en musique, le surplomb en escalade. De toute la mécanique de l'amour, j'ai préféré les baisers. Le premier, celui d'après, quelques autres non comptés. Beaucoup d'amis en prison et dans les exils purgent le XXe siècle aussi pour moi. Dans l'oreille m'est resté quelques coups de feu proches. À ma main, il suffit d'un soir pour oublier. Au reste de moi, non. Deux poèmes sur l'eau, un sur la mer et un sur l'eau de la terre à la suite de la rupture d'un barrage. Qui a étendu ses bras au large en agitant les nageoires de ses pieds, les yeux fixés dans l'obscurité de sa respiration, qui s'est plongé au fond de la pupille d'un mérou dans son antre, oubliant l'air, qui a attaché au mât une toile et a calculé sa route et sa dérive, qui a ramé debout sur de longs bateaux, ceux-là savent que les eaux ont des visages, et sur les visages affleurent tempêtes, bonasses, courants, et le saut des poissons qui rêvent de voler. Écoute un autre vacarme, une montagne entière qui s'effondre sur la retenue d'un barrage. C'était la nuit. Assaillis par l'écroulement, les eaux explosèrent vers le haut et arrachèrent les maisons de Erto et de Casso, des pentes au midi, et puis à nouveau vers le bas, eau sur eau, derrière la muraille Escabeau, entraînant en aval Longarone, lac, fleuve et tempête de Vajon, 2000 des nôtres disparus. Écoute le plongeon, hors du cœur de ton sang, quand l'amour presse. Multiplie-le par le carré des étoiles fixes, par le cri du chevaux égorgé dans chaque Pâques Noël, par la scie de la foudre et le pic du tonnerre. Ajoute-le au fracassement du bois effacé. Mélèze, sapin, charme, bouleau, cerf, hibou, lièvre, martre, œufs, ailes, pattes, griffes, broyées. Et puis divise par le silence de la minute qui suit. Ne joue pas avec l'eau, ne l'enferme pas, ne la freine pas. C'est elle qui joue dans les gouttières, turbines, ponts, rizières, moulins et bassins de salines. C'est l'allié du ciel et du sous-sol. Elle a des catapultes, des mâchoires d'assaut. Elle a la patience et le temps. Tu passeras, toi aussi, espèce de vice-roi du monde, bipède sans aile, épouvanté à mort par la mort, jusqu'à la hâter. Voici justement un poème sur la mort. Le vacarme de trois choses va de par le monde au-dessus des océans et des neiges, terre de sécheresse et de rizière. Et nulle membrane de Louis ne le capture, le vacarme de trois choses. Le vacarme du soleil qui va de par le ciel, le vacarme de la pluie, quand le vent la détache des nuages, et le vacarme de l'âme d'un corps qui la crache. Voici un poème sur la joie et un poème sur le bonheur. Si je peux t'oublier, elle devra m'oublier, la main qui écrit les lettres, la droite du marteau et de la paume de la fronde. Si je peux t'oublier, s'attachera ma langue à la selle de mon palais, la langue des sifflements à la nuit et des baisers à la peau, léchée comme le sel par une chèvre. Qui s'attache ma langue à ma mâchoire, si je ne monte au sommet de ta joie. Elle arrive à l'improviste. Elle dure autant que les cercles dans l'eau après la pierre. Elle interrompt les pensées, la mélancolie. Elle est sans réservation, sans rendez-vous, la mystérieuse miette du bonheur. Celui qui la reconnaît trop tard lui fait un signe à la mémoire du temps où elle était là et il ne la connaissait pas. Il veut souffler dessus, mais inutile, l'étincelle de la braise ne part pas. Alors, je l'ai à l'œil, le nerf prêt à la secousse électrique, maternelle, pyrotechnique du bonheur, la voici. C'est maintenant. Il n'a pas écrit beaucoup sur l'amour dans sa poésie. Voilà un tout petit poème sur l'amour. Une parole suffit et m'arrache des cris. Tu me toucheras, vite le sang sortira. Tu me regarderas, aussitôt je serai aveugle. Tu es angoisse, piège, bagarre, dès que tu respires. Si je me retranche dans l'hiver, les années, Sur mon cœur, je compte les coups d'un moineau affolé qui tape contre les vitres pour sortir à ta rencontre. Voici deux poèmes sur la guerre qu'il a connue dans les Balkans. Devant les fontaines, les vieux à la file, les femmes le long du fleuve, et l'air sifflotait de projectiles d'éclat, la fanfare des sièges mêlés aux sirènes. Danube, Save, Drina, Nereba, Mijaka, Bosnia, dernier fleuve de guerre du XXe siècle. Les armées plantaient leurs crocs sur les rives, coupaient les jarrets des ponts. Lumière de la ville, Chaplin, les lumières de ces villes étaient toutes éteintes. D'autres mers à genoux puisent l'eau sur les berges, après que la Volga a arrêté à Stalingrad la 6e armée de von Paulus et l'a repoussée et poursuivie jusqu'au dernier pont sur la Spree noyant Berlin. Des eaux d'Europe reflètent encore ces incendies. La Vistule au dégel, éclairée par les flammes du ghetto, ça ne pouvait suffire au XXe siècle. L'eau en Europe coûte à nouveau son équivalent en sang. Je suis allé à Belgrade pendant le mois de mai de ces bombardements. Il m'a manqué la force d'être cum, avec, de sceller une alliance. J'ai été dans cette ville, locataire d'un de ces balcons nocturnes, chambre 411. J'ai ordonné à mon corps de faire sentinelle à la nuit. J'ai été seul comme on ne devrait pas l'être, seul contre mon pays tombé en guerre, seul dans la vie coupée en deux, une moitié côté ciel et l'autre côté terre. J'avais sur moi une poésie de Dylan Thomas qui tira des vers et un titre des bombes allemandes sur Londres. Pardon. Parmi les morts du raid aérien de l'aube, il y avait un vieil homme de 100 ans. Le vieux de Belgrade sortait se promener. Avec un désœuvré venu d'un autre sud, ils arrivaient au Part Kalamegan, au croisement des eaux du Danube et de la Save. Ils jouaient aux échecs, assis sur les bancs. Ils ne permettaient pas qu'on dérange leur printemps. Les vieux, les échecs et le mois de mai, assis à côté d'eux, j'ai écrit ceci. Pensée d'un idiot devant la Save, un jour de mai 99. Je vais donner une montre à un vieux qui vient s'asseoir. Il dit « Doberdan » et se met à parler du temps, qui cette année est pluvieux et mauvais pour les rhumatismes. Peu lui importe ce que fait un homme de Naples à Belgrade, pourquoi il n'y fait rien, il y est seulement. J'ai une montre dans ma poche, je veux la donner en échange du bout de fer crochu qui m'a retiré hier de l'oreille gauche un bousson de chair humaine à l'hôpital de la rue Podzierza. À présent, j'entends de loin les cloches, les coups de tonnerre et j'entends les sirènes de Belgrade en même temps que celles de Naples restées dans les histoires de guerre de ma mère. Louis est rétroactive, elle mélange les bombardements, elle écorche les nuits. De ma fenêtre, je sers de berger aux troupeaux de nuages pour qu'ils ne se dispersent pas sous les coups de canon tirés des étoiles. Voici un petit poème où il parle des valeurs qui lui sont importantes. J'aime bien le relire de temps en temps. J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, la fraise, la mouche. J'attache de la valeur au règne animal et à la république des étoiles. J'attache de la valeur au vin tant que dure le repas, au sourire involontaire, à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à deux vieux qui s'aiment. J'attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien et à ce qui aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'attache de la valeur à toutes les blessures. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à accourir à un cri, à demander la permission avant de s'asseoir, à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce, quel est le nom du vent en train de sécher la lessive. J'attache de la valeur au voyage du vagabond, à la clôture de la moignale, à la patience du condamné, quelle que soit sa faute. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Bien de ces valeurs, je ne les ai pas connues. Nous sommes en Occident, un petit poème sur les relations entre Orient et Occident. En visitant l'Orient et l'Occident, nous, d'ici-bas, admirons l'architecture massive, le renflement des montagnes, le gonflement des eaux, et nous sommes pris du vertige des engloutis vivants. Car nous, d'ici-bas, nous vénérons le vide, par exemple celui d'un volcan, l'entonnoir cathareux, que jamais il ne s'empiffre, loué saint vacant qui laisse vacant le cône enflammé. Amen, amen. Nous sommes des connaisseurs patentés du vide, par exemple à l'estomac, la faim. Pour nous, ce n'est pas du manque, c'est une présence de ventre, danse de besoin, acharnement, épine, soutien, insomnie. Même nos maisons l'ont pour fondation, mieux qu'un pilier. La ville est implantée sur des galeries, des grottes. Les tremblements de terre cognent dans le sous-sol creux comme le taureau contre le chiffon rouge. Le vide est notre toréador sous la plaza. Il écarte, protège et sauve plus que le saint patron. Sans être des anges, même de l'espace déchu et sans ailes, nous évoluons dans l'air, nous, d'ici-bas, du sud, sans usure de naissance, débiteurs dès la naissance. Vous êtes le plein d'os, de cerveau, de sang, de poing. Nous sommes de l'air dans les bronches, la toux, une chanson, les voyelles. Un petit poème sur un thème inhabituel, n'est-ce pas? Le crachat. Le premier vers vous expliquera pourquoi. Il a été jardinier. Le crachat dans la main se sèche sur la pioche. Le crachat par terre devient ensuite de la boue pour y pétrir un Adam. Le crachat sur le mur était rose de sang. Le crachat de la faim est dur de blasphème. Le crachat sur un visage, je n'ai pas su le faire. Et pas même dans l'assiette. Le crachat que Job n'arrive pas à avaler, je ne l'ai pas connu. Le crachat contre le vent, bien des fois, en solo, sans amour, le crachat est la colle de tous mes écrits. Un poème sur la montagne. Je mélange, voilà. Sur la paroi ouest de l'après-midi, arrive le soleil et il réchauffe mon os occipital. Depuis une centaine de mètres, j'avance sur des centimètres le visage contre le mur. Les prismes de quartzite dans la pierre dolomie piquent des aiguilles de lumière aubépine dans mes yeux. Deux larmes lubrifient le dos de ma main. Au bout du dièdre, le ciel s'approche, encore un grand écart, et je l'enjambe. Un poème sur le pied. C'est dans son livre de souvenirs, ce poème-là, avec un autre sur l'appel à la jeunesse. Mon pied est un animal préhistorique. Il est enchaîné à mon talon, sinon il irait léger sans sa charge de porteur du poids. d'un corps 60 fois supérieur au sien. Il se nourrirait de poussière, d'algues. Il peut rester des heures sous l'eau, mais dans les chaussettes et les chaussures, il souffre. La nuit, il rêve d'effleurer un pied de femme. Il rêve même d'écrire. Dans les plongeons de tête, il sourit d'être au point le plus haut du corps. La nuit, il sort des couvertures, même l'hiver, puis je le recouvre glacé. Quand j'écris longtemps, il s'impatiente, il tape, il tambourine. Il attribue au corps sa plus exacte définition, bipède, la partie qui représente le tout. Mon pied, sauveur de vie, avant moi. La vipère enroulée toute prête et il dévia mon pas en un temps record. Quand il se soulève sur ses pointes en piédestal, il me fait atteindre toutes les hauteurs. Mais quand il s'entête, même la sirène des bombardements ne le déplace pas. Tandis que j'écris sur lui, bridé dans des sandales, ironique, il me regarde et remue tarse et métatarse. S'il était une main, ça voudrait dire « Que veux-tu ?» Et voici pour terminer un appel à la jeunesse. Assez long, donc on verra si on le met ou pas. À votre âge, mon avenir était en forme de flipper. Un ressort me propulsait en montée dans le couloir de lancement. Je débouchais sur la piste, les ricochets partaient, puis dans la bagarre des premières minutes, l'avenir ne ressemblait plus à rien. À votre âge, une main de fille tenue sous la table me faisait imaginer des enfants. Les heures d'école étaient un chariot, moi un cheval de trait, les rênes dans la main d'un cocher derrière. Les cheveux blancs des anciens étaient une neige éternelle. Une époque glaciaire leur était due. À votre âge, le mot « océan » me remplissait la bouche de salive. Le pleur des enfants était différent, sans caprice, dépit. Il servait à réchauffer, à la douleur aussi, il faut une température. À votre âge, le siècle bloquait ses battants et les battus, malgré la vie de fermeture. Je suis resté dedans, c'est de là que je vous observe. À votre âge, le nerf de la justice écorchait la gorge. Si ça vous arrive, ne faites pas d'autoportrait avec cet accroc sur la figure. Ainsi, plus tard, vous ne serez pas effrayé par celui que vous avez été. À votre âge, il y avait des bateaux et des voyageurs. Ils allaient loin. Ceux d'aujourd'hui tournent sur une piste, vont en croisière, font une ronde. À votre âge, on partait de dos, sur la route, en terre, de la fin des films de Charlot. Ils envoyaient de l'argent de là-bas, pas de carte postale, bien peu revenaient. Ne vous froissez pas des différences, elles servent à mesurer le temps mieux que les calendriers et les horloges. À votre âge, formule saugrenue, on est contemporain que de soi-même. Je n'ai pas eu le vôtre, il a existé un âge à moi, une chemise en coton bleu, et ce tachat de peinture, je ne pouvais plus la mettre. Je ne l'ai pas jetée, elle est dans l'armoire, suspendue avec les autres. Sur moi, elle serait l'étreinte de mon père. Elle a été ainsi il y a longtemps, cette chemise. Âge, ou peut-être son fils. Il a duré quelques voyages de nuit dans le compartiment enfumé Torino Porta Nueva Napoli Centrale, pour un rendez-vous avec le tremblement de terre de l'automne 80. Elle a duré une nuit de mai 69. L'amour eut sans savoir quoi en faire. Il a été meilleur que tous les savoir quoi en faire. Je me félicite encore de mon incompétence d'avoir laissé l'amour où il était. Je vous salue d'en bas et non d'en haut, de la distance qui n'est pas expérience, de la claque du flipper pour ne pas aller dans le trou. Merci de m'avoir écouté.
Voici donc dans cette seconde partie des poèmes qui parlent du chat. Le chat ou la chatte ont été le compagnon ou la compagne de nombreux écrivains fascinés par un certain mystère chez ces animaux. Pour une fois, vous aurez une grande majorité de poèmes classiques en poésie rimée, de poètes que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer dans vos études. Une araignée, au chapelet pendu, a retissé la toile, avec deux ou trois nuages qui passaient par là. Il ne restait plus rien, un ciel vide, sans aucune obscurité, ni angoisse. Un ciel qui se rendait compte que tout ça, ça allait bien trop loin, que ça finirait mal. Mais que faire? Le chat a sali les ombres de la lune, a ruiné le ciel, vidé les phobies du monde et des cœurs, vider les troubles obsessionnels compulsifs et s'est recouché paisiblement, sans d'autre panique que de paraisser ensuite. Les romans sont devenus des arbres ou des papillons de candeur, les conserves des fringants poissons ou des cœurs d'azur. Nos cœurs sont devenus des âmes ou des vauriens mal peignés, à la passion de travers. Le chat remonte l'escalier. Que peut-il encore se passer? Je comprends que le chat ait frappé Baudelaire par son être magique où s'incarne le sphinx, par le charme câlin de la lueur si claire qui s'échappe à longet de ses deux yeux de lynx. Je comprends que le chat ait frappé Baudelaire. Femme, serpent, colombe et singe par la grâce, il ondule, se cambre et regimbe aux doigts lourds. Et lorsque sa fourrure abrite une chair grasse, c'est la beauté plastique en robe de velours. Femme, serpent, colombe et singe par la grâce, vivant dans la pénombre et le silence austère, où ronfle son ennui comme un poil enchanté, sa compagnie apporte à l'homme solitaire le baume consolant de la mysticité. Vivant dans la pénombre et le silence austère, tour à tour triste et gai, somnolent et folâtre, c'est bien l'âme du gîte où je me tiens sous clé. De la table à l'armoire et du fauteuil à l'âtre, il vague sans salir l'objet qu'il a frôlé. Tour à tour triste et gai, somnolent et folâtre. Deux phares hypnotiques sur ces robustes piliers, les grandes arcades s'ouvrent, se déplient et se déploient dans un serpentin infini. La feuille d'eau lâche son ultime goutte, sans toucher, jamais, le félin qui dans le vent s'est perdu. Ô fauve altier de la maison, arrogant vestige de la nuit, paresseux gymnaste étranger, chat, profondissime chat, police secrète de la maison, insigne d'un velours disparu. Évidemment, il n'y a aucune énigme en toi. Peut-être que tu n'es pas mystérieux du tout, qu'on te connaît bien et que tu appartiens à la caste la moins mystérieuse. Peut-être qu'on se croit maître, propriétaire, oncle de chat, compagnon, collègue, disciple ou ami de son chat. Mais non, je ne souscris pas, je ne connais pas le chat. Je sais tout de la vie et de son archipel, la mer et la ville incalculable, la botanique, la luxure des gynécées, le plus et le moins des mathématiques, le monde englouti des volcans, l'écorce irréelle du crocodile, la bonté ignorée du pompier, l'atavisme bleu du sacerdoce. Mais je ne peux déchiffrer un chat. Ma raison glisse sur son indifférence. Ses yeux sont en chiffres d'or. le chat qui descend l'escalier vient de saloper les ombres de la lune. Ce soir, c'est lui. C'est lui qui s'est pris pour un agneau de Dieu. Une pantoufle est tombée, puis un opulent craquement. Une première et innocente gouttelette sur mon front. Tous les péchés du monde se sont ensuite déversés d'une hauteur infinie dans un fracas du diable, de tempêtes sacrées et de foudres suppliciées. Comme ça. Un clown et un cygne ont refermé la marche. Le jeune philosophe et la vieille portière aiment le chat câlin, pudibond et méchant, qui vers le pot au lait tout en se pourléchant, descend à pas comptés le long de sa gouttière. Les plus doux oreillers lui servent de litière. Fourré, poltron, gourmand grassouillet, pleurnichant, l'animal paresseux fait gros dos en marchant et pâte de velours pendant sa vie entière. La robuste fermière et le rude fermier aiment aussi leurs chats, troupeaux maigres et farouches, qui courent le long des murs, des souris dans la bouche. Ils aiment leur matou qui descend du grenier pour étrangler les rats qui grouillent dans la grange et qui, si ces petits sont trop nombreux, les mangent. Il siège au coin du feu, les paupières mi-closes, aspirant la chaleur du brasier qui s'éteint. La bouilloire bouillonne avec des bruits d'étain. Le bois flambe, noirci, s'effile en charbon rose. Le royal exilé prend de sublimes poses. Il allonge son nez sur ses pieds de satin. Il s'endort, il échappe au stupide destin, à l'irrémédiable écroulement des choses. Les siècles en son cœur ont épaissi leur nuit. Mais au fond de son cœur, inextinguible lui, comme un flambeau sacré, son rêve héréditaire. Un soir d'or, le déclin empourpré de soleil, des fûts noirs de palmiers sur l'horizon vermeil, un grand fleuve qui roule entre deux murs de terre. La feuille se cabre et tressaille. Dans un silence de grâce, les courbes se tendent. La courbure de la voûte s'affaisse. Une flèche, une pyramide, les nervures des voûtes égyptiennes se diffusent. Deux cercles ravageurs dans la nuit. Au commencement, les animaux furent imparfaits, longs de queue et tristes de tête. Peu à peu, ils évoluèrent et se firent paysage, s'attribuèrent mille choses, grains de beauté, grâce, vol. Le chat, seul le chat, quand il apparut, était complet, orgueilleux, parfaitement fini dès la naissance, marchant seul et sachant ce qu'il voulait. L'homme se rêve poisson ou oiseau, le serpent voudrait avoir des ailes. Le chien est un lion sans orientation, l'ingénieur désire être poète, la mouche étudie pour devenir hirondelle, le poète médite comment imiter la mouche, mais le chat, lui, ne veut qu'être chat. Tout chat est chat, de la moustache à la queue, du frémissement à la souris vivante, du fond de la nuit à ses yeux d'or. Il n'y a pas d'unité comme lui. Ni lune ni fleur dans sa texture. Il est une chose en soi, comme le soleil ou la topaze, et la ligne élastique de son contour, ferme et subtile, est comme la ligne de proue d'un navire. Ses yeux jaunes laissent une fente où jeter la monnaie de la nuit. Ô petit empereur sans univers, conquistador sans patrie, minuscule tigre de salon, nuptial sultan du ciel, des tuiles érotiques, tu réclames le vent de l'amour, dans l'intempérie quand tu passes, tu poses quatre pieds délicats sur le sol, reniflant, te méfiant de tout ce qui est terrestre, car tout est immonde pour le pied immaculé du chat. Un village écoute, désolé, le chant d'un oiseau blessé. c'est le seul oiseau du village, et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter, le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau, et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille, où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. « Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Ce soir de décembre est si triste qu'on ose à peine respirer. On entend doucement le disque de la pleine lune tourner, et sous l'aiguille de la bise meurt et renaît, le long des toits, une longue plainte que brise le miaulement bref d'un chat. Non moins furtif que l'aube aventurière, non moins silencieux que le miroir, tu passes, et je pense apercevoir, sous la lune équivoque, une panthère. Par quelque obscur et souverain décret, nous te cherchons, nous voulons, fauve étrange, plus lointain qu'un couchant ou que le Gange, forcer ta solitude et ton secret. Ton dos veut bien prolonger ma caresse. Il est écrit dans ton éternité que s'accorde à ta frileuse paresse ma main et son amour inquiété. Ton temps échappe à la mesure humaine. Clos, comme un rêve, et ton domaine. Ton museau que ton nez termine, rose comme un bouton de sein, tes oreilles dont le dessin couronne fièrement ta mine. Pourquoi cette sérénité? Aurais-tu la clé des problèmes qui nous font, frissonnants et blêmes, passer le printemps et l'été? Devant la mort qui nous menace, chat et gens, ton flair plus subtil que notre savoir, te dit-il, où va la beauté qui s'efface? Où va la pensée? Où s'en vont les défuntes splendeurs charnelles? Chatte, détourne tes prunelles, j'y trouve trop de noir au fond. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire. Toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu? Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Chatte blanche, chatte sans tache, je te demande dans ses vers, quel secret d'or dans tes yeux verts, quel sarcasme sous ta moustache. Quand on est chat, on n'est pas vache. On ne regarde pas passer les trains, en mâchant les pâquerettes avec entrain. On reste derrière ses moustaches. Quand on est chat, on est chat. Quand on est chat, on n'est pas chien. On ne lèche pas les vilains moches, parce qu'ils ont du sucre plein les poches. On ne brûle pas d'amour pour son prochain. Quand on est chat, on n'est pas chien. On passe l'hiver sur le radiateur à se chauffer doucement la fourrure. Au printemps, on monte sur les toits pour faire taire les sales oiseaux. On est celui qui s'en va tout seul et pour qui tous les chemins se valent. Quand on est chat, on est chat. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit. Son regard, comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupe et fend comme un dard. Et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats, puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Maintenant que le vivre me fâche, et afin, Mani, que tu saches pourquoi je suis tant éperdue, ce n'est pas pour avoir perdu mes anneaux, mon argent, ma bourse. Et pourquoi est-ce donc pour ceux que j'ai perdus depuis 3 jours, mon bien, mon plaisir, mes amours? Et quoi, ô souvenance grève, à peu que le cœur ne me crève, quand j'en parle ou quand j'en écris, c'est Belot, mon petit chat gris. Belot qui fut par aventure le plus bel œuvre que nature fit onque en matière de chat. C'était Belot la mort au rat, Belot dont la beauté fut telle qu'elle est digne d'être immortelle. Donc Belot premièrement ne fut pas gris entièrement, ni tel qu'en France on les voit naître, mais tel qu'à Rome on les voit être. Couvert d'un poil gris argentin, rat et poli comme satin, couché par ondes sur l'échine, et blanc dessous comme une hermine. Petit museau, petites dents, yeux qui n'étaient point trop ardents, mais desquels la prunelle perse imitait la couleur diverse qu'on voit en cet arc pluvieux qui se courbe au travers des cieux. La tête à la taille pareille, le col grasset, courte l'oreille, et dessous un nez ébenin, un petit mufle lyonnais, autour duquel était plantée une barbelette argentée. Amant d'un petit poil follet, son musequin d'amoiselet, jambes grêles, petites pattes, plus qu'une moufle délicate, sinon alors qu'il dégainait cela dont il égratignait. La gorge douillette et mignonne, la queue longue et la guenonne, mouchetées diversement d'un naturel bigarrement. Le flanc haussé, le ventre large, bien retroussé dessous sa charge, et le dos moyennement long, vrai souriant s'il en fut on. Tel fut Belot la gente bête, qui des pieds jusqu'à la tête de telle beauté fut pourvue, que son pareil on n'a point vu. Oh, quel malheur, quelle perte, qui ne peut être recouverte! Quel deuil mon âme en reçoit! Vraiment la mort, bien qu'elle soit plus fière qu'un ours l'inhumaine, si de voir elle eût pris la peine, un tel chat son cœur endurci, en eût, se crois-je, merci. Et maintenant ma triste vie me haïrait de vivre l'envie. Mais la cruelle n'avait pas goûté les folâtres ébats de mon Belot ni la souplesse de sa gaillarde gentillesse. soit qu'il sautât, soit qu'il grattât, soit qu'il tournât ou voltigeât, d'un tour de chat ou soit encore, qu'il prît un rat et or, le relâchant pour quelque temps, s'il en donna mille passe-temps, soit que d'une façon gaillarde, avec sa patte frétillarde, il se frotta le musequin. Ou soit que ce petit coquin, privé, sautela sur ma couche, ou soit qu'il ravit de ma bouche la viande sans m'outrager, alors qu'il me voyait manger. Soit qu'il fît en diverses guises, mille autres telles mignardises. Mon Dieu, quel passe-temps c'était, quand ce belot vit revolter, folâtre autour d'une pelote. Quel plaisir quand sa tête saute, devant sa queue en mille tours, d'un rouet imiter le tour. Ou quand, assis sur le derrière, il s'en faisait une jarretière, et montrant l'estomac velu, de panne blanche crépelue, semblait en sa trogne était bonne, quelque docteur de la Sorbonne. Ou quand, alors qu'on l'animait, à coups de patte il escrimait, et puis apaisait sa colère, tout soudain qu'on lui faisait chair. Voilà, manie, les passe-temps, où Belot employait son temps. N'est-il pas bien à plaindre, donc? Au demeurant, une vie onque, chat plus adroit ni mieux appris, à combattre rat et souris. Belot savait mille manières de les surprendre en leur tanière, et l'or leur fallait bien trouver plus d'un pertuis pour se sauver, car onque rat, tant fut-il vite, ne se vit sauvé à la fuite, devant Belot. Au demeurant, Belot n'était pas ignorant. Il savait bien, tant fut traitable, prendre la chair dessus la table, j'entends quand on lui présentait. Car autrement il vous grattait, avec la patte friande, de loin muguetait la viande. Belot n'était point malfaisant, et ne fit onque plus grand dommage que de manger un vieux fromage, une linotte et un pinson qui le fâchaient de leur chanson. Mais quoi, manie, nous-mêmes, hommes, parfaits de tout point nous ne sommes. Belot n'était point de ces chats qui nuit et jour vont au pourchat. N'ayant souci que de leurs panses, il ne faisait si grand dépense, mais était sobre à son repas et ne mangeait que par compas. Aussi n'était-ce sa nature de faire partout son ordure, comme un tas de chats qui ne font que gâter tout par où ils vont. Car Belot, la gentille bête, si de quelque acte moins connaître, contre impossible il eût été, avait bien cette honnêteté de cacher dessous de la cendre ce qu'il était contraint de rendre. Belot me servait de jouet. Belot ne filait au rouet, grommelant une litanie de longue et fâcheuse harmonie. Ainsi se plaignait mignardement d'un enfantin miaulement. Belot, que j'ai souvenance, ne me fit onque plus grande offense que de me réveiller la nuit quand il entroyait quelque bruit de rats qui rongeaient ma paillasse, car lors il leur donnait la chasse et si dextrement les happait que jamais un n'en échappait. Mais là, depuis que cette fière tua de sa dextre meurtrière l'assure de garde de mon corps, plus en sûreté je ne dors. Et or, ô douleur non pareille, les rats me mangent les oreilles, même tous les vers que j'écris sont rongés de rats et souris. Vraiment les dieux sont pitoyables, aux pauvres humains misérables, toujours leur annonçant leurs maux, soit par la mort des animaux, ou soit par quelque autre présage des cieux le plus certain message. Le jour que la sœur de Cloton ravit mon petit peloton, je dis, j'en ai bien souvenance, que quelque maligne influence menaçait mon chef de là-haut, et c'était la mort de Belot. Car quelle plus grande tempête me pouvait foudroyer la tête. Belot était mon cher mignon, Belot était mon compagnon. À la chambre, au lit, à la table, Belot était plus accointable que n'est un petit chien friand, et de lui n'allait point criant comme ces gros marcous terribles en longs miaulements horribles. Ainsi le petit mitoir n'entra jamais en matoir, et en Belot quelle disgrâce! De Belot s'est perdue la race. Que plût à Dieu, petit Belon, que j'eusse l'esprit assez bon de pouvoir en quelque beau style blasonner ta grâce gentille d'un vers aussi mignard que toi. Belot, je te promets, ma foi, que tu vivrais tant que sur terre les chats aux rats feront la guerre. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme secret. Cette voix qui perle et qui filtre, dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur parfait instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde. Que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir, j'en fus embaumée pour la voir caresser une fois rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire, toute chose dans son empire. Peut-être est-il fée, est-il Dieu ? Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
Voici terminé notre nouveau voyage en poésie. Mille merci encore une fois à Maud, qui assure le montage et la mise en musique. Vous pouvez réécouter ou faire écouter le dimanche à 11h. Et vous pouvez podcaster sur le site de Radio Saint-Ferréol. À présent, une information importante. Dans le cadre d'une création sonore réalisée par l'équipe de l'émission Poète vos papiers, Radio Saint-Ferréol lance un appel aux poèmes. Vos poèmes seront intégrés dans la création sonore qui sera diffusée en continu dans un espace dédié lors des 40 ans de la radio le 7 mai 2022 à l'espace Saint-Jean à Cray. Pour réaliser cette création sonore, nous vous invitons à envoyer vos poèmes. Voici les conditions à respecter. Le thème des poèmes, les oiseaux. Les poèmes doivent faire moins de 2 minutes à la lecture. Les poèmes peuvent être de vous ou empruntés à un auteur ou une auteure. Envoyez vos sons ou vos textes, si vous voulez que nous les lisions, à poésie@radiosaintfe.com. Date limite pour les envois, 10 avril 2022. L'équipe de Poètes vos papiers se réserve le droit de choisir les textes pour la création sonore. La création sonore sera également diffusée sur les ondes de Radio Saint-Fé après l'événement. On compte sur vous et on espère que le thème vous inspire.